je vais vous présenter le conférencier de ce soir, Israël Nizan, qui est né en 1950. Il est gynécologue et obstétricien. Pour son parcours, de 1967 à 1974, études de médecine à Strasbourg. De 1974 à 1978, interne des hôpitaux de Strasbourg. 1978-1981, chef de clinique assistant des hôpitaux. 1988-1992, expert en diagnostic prénatal et médecine fœtale à la cour d'appel de Colmar. 1990-1992, chef du service de gynécologie obstétrique à Poissy. 1993-1998, expert à la cour d'appel de Versailles. Et depuis 2002, chef du département de gynécologie obstétrique au CHU de Strasbourg. Pour ses spécialités, il est gynécologue obstétricien. Il est spécialiste du diagnostic pré-implantatoire. Il travaille également sur les questions éthiques posées sur les techniques d'interruption volontaire de grossesse et sur l'impact des nouvelles techniques de procréation sur la famille. Il est également intervenu sur l'IVG et sur l'arrêt Perruche, auquel il s'est opposé. Pour sa bibliographie, il a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et internationales et il a participé à de nombreux congrès et comités scientifiques. Il est l'auteur d'un rapport sur l'IVG en France, 1998, et il a publié et dirigé plusieurs ouvrages, dont Gynécologie obstétrique, éditeur Douin, 2002. Je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci.
Merci bien. C'est un honneur et un plaisir pour moi que d'être ici ce soir. Honneur parce que... L'Université de tous les savoirs fait un travail exceptionnel. Plaisir, car ça me ramène dans un amphithéâtre où j'ai enseigné il y a une dizaine d'années, avec plaisir, les étudiants en médecine, et donc j'ai plaisir à me retrouver ici pour aborder des questions qui me tiennent à cœur, puisque cela fait 30 ans que je m'occupe de médecine fœtale et de diagnostic prénatal, 20 ans que je m'intéresse et m'occupe de médecine de la reproduction, et à ce titre-là, je crois que ces médecines-là ne peuvent pas être faites ni pratiquées sans, d'une part, une réflexion éthique sur le sens et sur les enjeux de ces médecines, mais également sans s'ouvrir au grand public des questions et interrogations que l'on peut éprouver lorsqu'on pratique ces métiers. Et donc, j'allais dire, vos réactions, vos questions et vos commentaires seront sûrement aussi intéressant que ce que je vais dire maintenant. La famille est bousculée depuis longtemps. Je voudrais simplement dire que, avant la famille, dans l'histoire de l'espèce humaine, il y avait le clan. Et ce qui diffère entre famille et clan, c'est la paternité. Le clan, c'est un groupe d'humains qui vivent ensemble. Des femmes sortent des enfants dont on ne sait pas qui est le père. Lorsque l'espèce humaine a découvert la paternité, et c'est pas il y a si longtemps, car c'était pas très évident de découvrir qu'il y avait un lien entre ceux qui avaient eu des rapports sexuels avec les femmes et les enfants qui en sortaient 9 mois plus tard. Lorsque l'espèce humaine a découvert la paternité, les familles sont apparues. Et ce qui caractérise la période d'aujourd'hui par rapport à ces temps reculés de la préhistoire, c'est la vitesse à laquelle les choses se transforment. Avant, il fallait des siècles et des siècles pour qu'on observe une toute petite modification. Je voudrais vous rendre attentif au fait que les familles viennent de vivre, il y a une cinquantaine d'années, un événement d'une importance considérable dont nous n'avons pas encore évalué tous les retentissements et toutes les retombées. Je veux parler de la contraception. La contraception et son corollaire, le déplacement du centre de gravité de la paternité, est un événement considérable dont je ne parlerai pas ce soir. Je ne parlerai pas non plus de l'IVG. Je ne parlerai pas des remariages et des recompositions familiales, qui sont toutes des événements, des phénomènes qui modifient très profondément la famille. Et je vais centrer mon propos sur les deux événements les plus récents qui ont des incidences également sur la famille. que sont l'aide médicale à la procréation et le diagnostic prénatal ou la médecine fœtale. Deux techniques qui sont encadrées par la loi. On ne peut pas faire ce genre de médecine sans participer à certaines obligations réglementaires. Et d'ailleurs, les lois bioéthiques ont pour thème principal l'organisation et l'encadrement de ces pratiques. Tout d'abord, l'aide médicale à la procréation, qui se définit comme étant l'ensemble des techniques médicales qui permettent d'aider un couple à avoir des enfants. Nous sommes le pays qui a la plus grande disponibilité au monde de ces techniques. La France dispose d'une centaine de centres de fécondation in vitro. L'accessibilité de ces centres y est totale puisque c'est pris en charge par la Sécurité sociale à 100%. Et cette accessibilité incroyable, exemplaire pourrait-on dire, a deux conséquences inattendues. Première conséquence, c'est une augmentation de la stérilité des couples dans notre pays. Et ce n'est pas par jeu ni par paradoxe que je dis cela. En effet, les couples qui savent la puissance médicale dans l'autre domaine, qui est celui de la contraception, en ont inféré à tort une puissance identique pour faire des enfants. Or, on est loin du compte. Si la médecine est très efficace pour empêcher des grossesses non souhaitées, en revanche, son efficacité est beaucoup plus modérée dans le domaine de faire venir un enfant là où il ne vient pas. Et les médecins se sont constitués comme une adresse à laquelle on peut sonner lorsque ne vient pas l'enfant 3 mois après qu'on ait décidé qu'il vienne. Bien sûr, les bonnes pratiques et l'enseignement de la médecine font qu'on dit aux médecins « n'intervenez pas tout de suite » car lorsque vous intervenez, même en faisant quelques tests, le couple a vite fait de se considérer comme malade. Et ça le rend malade. Cet effet qu'on appelle la iatrogénèse est extrêmement présent dans notre pays et il a une conséquence qui est l'augmentation constante du nombre de couples qui ont recours aux techniques de procréation médicalement assistée avec quelque chose de paradoxal, c'est qu'on a besoin des médecins pour faire le premier enfant et les autres viennent tout seuls. Ce qui montre bien qu'on n'est pas là dans une pathologie organique. Et cette première conséquence ne manque pas de nous interroger. La deuxième conséquence inattendue de cette grande diffusion est le recul de l'âge de la première grossesse dans notre pays. Juste un chiffre, en 1950, l'âge moyen du premier enfant était 22 ans. En 2004, l'âge moyen du premier enfant est 29 ans et 4 mois. Et ce phénomène-là entraîne une pathologie que le grand public ignore totalement. Sans compter la stérilité qui augmente de ce fait, nous voyons des femmes arriver à 40 ans nous dire « Voilà, je suis sous-directrice de ma banque et maintenant ce serait pour faire des enfants. » Madame, votre réserve ovarienne est à zéro. Comment ? On va sur la Lune et ma réserve ovarienne est à zéro ? Eh oui, si la vie s'est allongée, la période de reproduction ne s'est pas allongée. Et donc la stérilité augmente, mais pas que ça. Le recours à l'aide médicale à la procréation augmente sensiblement le nombre de grossesses multiples dans notre pays. Je n'ai pas amené de courbe avec moi, mais la courbe d'augmentation des jumeaux et des triplés dans notre pays est inquiétante. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous inquiétez de ça, enfin ? D'ailleurs, les mères à qui on annonce, après un traitement de stérilité, qu'elles sont porteuses d'une grossesse gémellaire, se réjouissent toutes. Alors pourquoi s'inquiéter ? Eh bien parce que la grossesse gémellaire est source de pathologies innombrables et la plus importante d'entre elles est l'accouchement prématuré. La moitié des accouchements prématurés de notre pays sont des accouchements prématurés liés aux grossesses gémellaires provoquées par les médecins. Et sur ces accouchements prématurés, plus de la moitié sont des accouchements prématurés graves, dont on connaît le retentissement sur le handicap, handicap cérébral. Si le handicap cérébral augmente actuellement dans notre pays, alors que nous avons beaucoup de centres de néonatologie extrêmement performants, c'est probablement à cause du recul de l'âge de la première grossesse qui entraîne un recours important aux techniques de procréation médicalement assistée, qui elles-mêmes génèrent 25% de grossesses gémellaires. Je voudrais juste encore prendre un exemple sur le recul de l'âge de la première grossesse. Une femme qui accouche au-delà de 40 ans a 120 fois plus de risques de mourir en couche qu'une femme qui accouche avant 30 ans. On pense d'ailleurs que les résultats de la France en matière de mortalité maternelle, qui ne sont pas bons, sont en grande partie liés à la structure d'âge de notre pays au moment de l'accouchement. Et encore un petit exemple pour vous dire l'effet de cela, c'est le nombre de trisomiques 21 qui naissent dans notre pays. Vous savez que la trisomie 21 est étroitement liée à l'âge de la mère, un peu moins étroitement liée à l'âge du père, mais liée également. Eh bien, il naît autant de trisomiques 21, il est né autant de trisomiques 21 en 2004 qu'en 1970. Mais entre les deux dates, en 1970, on ne faisait pas le diagnostic prénatal de la trisomie 21. Et en 2004, on a un programme national de dépistage de la trisomie 21 dont je reparlerai. Et 1000 trisomiques 21 ont été interrompus, avortés en 2004. Donc, tout le diagnostic prénatal et tout l'argent qui a été dépensé pour dépister, avec les conséquences dont je reparlerai, la trisomie 21, n'a que permis de ne pas augmenter le nombre de trisomiques 21 qui naissent, ce d'autant qu'aujourd'hui l'espérance de vie d'un trisomique 21 est la même que celle d'une personne qui n'a pas d'anomalie chromosomique. Et donc, rien que le décalage d'âge des mères entraîne un effet considérable sur la naissance d'enfants avec des pathologies, dont certaines graves et incurables. Alors, il y a quatre types de techniques en AMP de complexité croissante sur le plan technique et sur le plan éthique. Chaque fois qu'on a fait des progrès en médecine, ils étaient justifiés. Et donc, dans chacun de ces degrés, je pourrais vous expliquer à quel point il était nécessaire de faire ce progrès. C'est ce que j'appellerais le côté jardin. Mais à chacun de ces degrés, nous nous tournerons, si vous le voulez bien, sur le côté court, c'est-à-dire les aléas, les effets adverses et les éléments que l'on peut redouter comme n'étant pas des progrès liés à ce degré. Le premier degré des procréations médicalement assistées et celui de la fécondation in vitro, de la stimulation ovarienne, de l'insémination artificielle, où il s'agit d'obtenir une grossesse chez un couple qui, sans ces techniques, ne pourrait pas obtenir de grossesse. La légitimité médicale ici est évidente. Et il n'y a pas de problème moral. C'est le but de la médecine de pallier à ce que Dame Nature a perturbé. Obtenir une grossesse là où, il y a 20 ans, on ne pouvait pas l'obtenir. Obtenir la naissance d'un enfant en bonne santé que ramèneront ses parents à la maison. Où est le problème, me direz-vous ? Côté jardin. Et quel est le côté court de ce premier degré ? Eh bien, je vois trois inconvénients, trois types de problématiques. La première, j'en ai déjà parlé, c'est qui dit PMA dit grossesse gémellaire, avec la morbidité et la mortalité fœtale, néonatale et maternelle que ça implique. Et donc, à partir du moment où on met le doigt dans ces techniques, on diminue la santé des enfants par le biais des grossesses gémellaires. Il y a des pays où on ne remet qu'un seul embryon dans l'utérus des femmes jeunes. Et on dit aux femmes, lors des deux premières tentatives, nous ne remettrons pas plus qu'un embryon. Notre pays a un petit retard dans l'encadrement des pratiques médicales pour éviter les grossesses gémellaires qui ont un coût en argent et en santé épouvantable. Deuxième élément du côté court, c'est l'augmentation de l'âge des femmes enceintes. Troisième élément, c'est la nuisance de ces techniques. On estime que les médicaments utilisés pour stimuler l'ovulation augmente probablement le cancer de l'ovaire et probablement le cancer du sein. On ne sait pas trop mesurer le degré d'augmentation, mais on a de bonnes preuves pour dire que ces techniques ne sont pas sans conséquences du point de vue carcinologique. Mais le problème le plus important lié à la fécondation in vitro, à ce premier degré, et la problématique des embryons surnuméraires. Lorsqu'un couple fait un enfant, on est dans une décision de l'instant et dans un événement de l'instant. Lorsqu'un couple fait un enfant via la fécondation in vitro, on congèle des embryons. Car pour éviter d'avoir à remettre beaucoup d'embryons dans l'utérus, ce qui est néfaste, et pour éviter d'avoir à trop stimuler l'ovaire, ce qui est néfaste aussi, au cas où ça ne marcherait pas du premier coup, on a la possibilité de décongeler des embryons. Jusqu'ici, la légitimité médicale fait valoir sa vérité. Mais ces embryons surnuméraires ne sont pas sans poser des problèmes. Dans le service où je travaille, il y a près de 3000 embryons surnuméraires, dont plusieurs centaines sont déjà orphelins. C'est-à-dire que soit le père, soit la mère est décédé. Mais il y a aussi plusieurs centaines de ces embryons pour lesquels nous n'avons plus de nouvelles d'aucun des deux parents qui ne répondent plus ni aux courriers, ni aux différentes sollicitations que nous faisons. Enfin, il y a de très nombreux embryons qui sont issus de couples qui sont depuis longtemps séparés, remariés chacun de son côté, et qui ne veulent plus entendre parler de ces embryons surnuméraires. Il a donc fallu que le législateur se prononce sur que faire de ces embryons, en particulier lorsqu'il n'y a plus de parents pour nous dire quoi en faire, mais surtout, que faire lorsque l'un des deux parents nous demande ces embryons, alors que le père, par exemple, est décédé. Actuellement, la position du législateur est de dire « on ne crée pas des orphelins ». C'est une position que, personnellement, à titre personnel, je conteste, car ça équivaut à dire à une femme qui vient de perdre son mari alors qu'elle avait un projet d'enfant avec lui, « Madame, nous ne pouvons pas vous donner les embryons. Les deux possibilités qui s'offrent à vous sont de donner ces embryons à une autre femme ou de les jeter. Ce qui est une réponse que je ne me sens pas de faire. Donc ce point de loi, à mon avis, devra évoluer. Mais j'illustre cette histoire des embryons orphelins pour vous dire que d'une technique légitime qu'est la fécondation in vitro, on a là un problème et un vrai problème de société qui est la gestion des embryons surnuméraires. Deuxième niveau de complexité, le don de gamètes et d'embryons. Un des membres du couple n'a pas d'ovule ou pas de spermatozoïde, du tout. Et donc on va chercher ailleurs des spermatozoïdes, des ovules ou même un embryon déjà fait par un autre couple. Des dizaines de milliers d'enfants dans notre pays, qui sont d'ailleurs des adultes puisque cette technique existe depuis plus de 30 ans, doivent la vie au don de sperme. Des centaines d'enfants doivent la vie au don d'ovules. Et donc, le but positif, le côté jardin, est évident. Permettre à un couple où l'un des deux est définitivement stérile d'avoir quand même un enfant, on ne peut pas récriminer. Alors, tournons-nous vers le côté court de ce deuxième degré. Tout d'abord, il y a les conséquences psychologiques sur les donneurs et sur les receveurs. Car ce n'est pas simple de recevoir du sperme d'un donneur, des ovules d'un donneur, et encore plus lourd de recevoir un embryon, ce qu'on a appelé un petit peu à tort l'adoption prénatale. Mais tout de même, c'est quand même aux gens de dire ce qu'ils souhaitent, même si ultérieurement, il ne sera pas facile de gérer la complexité psychologique de ces situations. Le deuxième problème de ce qu'on appelle ces baïonnettes de filiation, c'est l'homoparentalité. Les homosexuels nous disent « le réel a changé ». Autrefois, pour faire des enfants, nous, les homosexuels, savions bien qu'il fallait forcément se rapprocher de l'autre sexe. Et désormais, ce n'est plus le cas. Certes, la loi de la France, pour l'instant, interdit d'utiliser les techniques de procréation médicalement assistée pour autre chose qu'un couple marié ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans. Mais les homosexuels disent « halte à la discrimination ». Nous ne sommes pas d'accord. Les techniques sont disponibles et d'ailleurs, nous allons obtenir des grossesses dans tous les pays riverains de la France. Les enfants issus d'unions homosexuelles n'auraient-ils pas les mêmes droits que les autres enfants ? Est-il normal qu'un enfant qui perd sa mère biologique soit obligé d'aller à la DRAS ? Alors qu'il a encore une autre mère, et au nom de l'égalité des droits entre les enfants issus de couples hétérosexuels et les enfants issus de couples homosexuels, on va changer la loi. Forcément, car il y a des milliers d'enfants issus de couples homosexuels. Alors, personnellement, j'étais bousculé par des observations et des demandes de couples homosexuels qui m'ont fait changer mon opinion initialement assez conservatrice dans ce domaine. Le fait de rencontrer un couple de femmes ensemble depuis 10 ans qui disent « voilà, nous sommes amoureuses l'une de l'autre, nous avons rencontré un couple d'hommes homosexuels dont l'un d'entre eux accepte de nous donner du sperme. Il s'appellera papa. Il participera de l'éducation de l'enfant. Et l'autre femme du couple, ce sera marraine. Mais pouvez-vous nous dire, docteur, que nous serons un moins bon couple parental que certains couples hétérosexuels qui font leur enfant dans une nuit d'ivresse ? Mais sûrement pas. En revanche, la demande qui m'est parvenue par téléphone il y a quelques mois d'un couple homosexuel où la femme me disait « Voilà, avant de venir vous voir, j'aimerais savoir si ça vaut la peine de venir. J'ai 40 ans, je viens de quitter mon mari et mes enfants pour m'établir en ménage avec mon ami eux. Et nous souhaiterions toutes deux que vous preniez mes ovules, que vous les inséminiez avec un sperme venu d'ailleurs et que vous remettiez les embryons ainsi obtenus dans l'utérus de ma compagne. » Eh bien, expliquez-moi, madame, le sens de votre demande. C'est simple, docteur, nous voulons que l'enfant soit un peu de nous deux femmes. Peut-être ai-je là une réaction d'homme, mais l'élision de la paternité qui est codée dans cette demande-là me dérange. Et vous voyez que je viens de citer deux vignettes cliniques très différentes l'une de l'autre. L'une où, à titre personnel et au nom de mes valeurs, j'aurais tendance de dire oui, il faut dire oui. Et l'autre, ou à titre personnel et au nom de mes valeurs personnelles, j'aurais tendance de dire c'est pas raisonnable. Et voilà le législateur confronté à une situation d'une difficulté extrême, mais il ne pourra pas continuer dans l'abstention. C'est-à-dire qu'il va falloir débattre de ce sujet-là. Et c'est un sujet compliqué. Plus compliqué encore le sujet, toujours dans ce deuxième niveau, des maternités de substitution. Lorsque j'ai commencé la fécondation in vitro en 83, j'avais une liste d'une dizaine de femmes dans ma ville qui étaient candidates pour être mères porteuses. Et elles expliquaient qu'elles n'étaient heureuses que quand elles étaient enceintes, qu'elles adoraient accoucher, qu'elles avaient déjà 2-3 enfants et qu'elles avaient envie de rendre ce service-là à d'autres femmes, évidemment, en étant rétribuées, pourquoi pas. À l'époque, j'étais un petit peu choqué par cela et j'ai été très heureux de voir le législateur interdire tout bonnement les maternités de substitution dans notre pays. Mais là aussi, c'est des couples qui m'ont fait regretter cette loi. Je rencontre un jour un couple de diplomates turcs qui avait accouché une première fois en France, et l'enfant était malheureusement mort pendant la naissance. Comme c'est habituel dans ce genre de circonstances, la mère, tout à sa peine, n'a plus consulté par ailleurs, et sa cicatrice d'épisiotomie a cicatrisé de manière vicieuse, obturant totalement l'entrée du vagin, à l'exception d'un petit pertuis de la taille d'une tête d'épingle par lequel s'écoulait le sang menstruel. Les médecins lui ont proposé de réparer ça et le couple très dignement a dit « ça va comme ça, on se débrouille comme ça ». Par le petit pertuis est survenue une grossesse. La femme était alors à Ankara et malheureusement, elle a eu une complication gravissime de sa grossesse au 7e mois qui a obligé les gynécologues d'Ankara à sortir l'enfant qui est mort et à enlever l'utérus car sans cela, la femme mourait. Et je revois ce couple 2 ans plus tard avec la sœur de la femme qui disent « Voilà, voilà notre demande. Nous voudrions que vous preniez mes ovules, que vous preniez le sperme de mon mari qui est là et que les embryons, vous les replaciez dans l'utérus de ma sœur qui a déjà 3 enfants, qui habite un pavillon mitoyen et qui ne rêve que d'une chose, c'est de me rendre ce service-là, moi qui suis victime de Dame Nature et des médecins. Au nom de mes valeurs, je ne vois pas où est le problème. Et je crois que nous y gagnerions à revenir en arrière sur cet interdit-là, en acceptant, comme l'ont fait de nombreux pays occidentaux, que de temps en temps, il puisse y avoir une maternité de substitution au cas par cas. Ce qui éviterait d'avoir à répondre ce que j'ai dû répondre à ce couple, aller voir chez nos amis belges. Et ce que nous répondons aux femmes françaises qui vont tomber dans les raies de véritables esclaves, marchands d'esclaves aux États-Unis et au Canada, qui n'ont d'égal dans la malhonnêteté que les profits qu'ils réalisent. Il vaudrait mieux faire ça chez nous. La prohibition ne s'est pas soldée par quelque chose de bon pour les familles françaises. Donc, deuxième niveau, déjà des choses très compliquées. Troisième niveau, c'est quand l'aide médicale à la procréation rencontre la génétique, ce qu'on a appelé le diagnostic préimplantatoire. Alors, je vais vous décrire le côté jardin. Côté jardin, c'est des couples qui ont déjà mis au monde un enfant qui a une myopathie de Duchenne et qui passent leur vie à essayer de faire en sorte que cet enfant ne soit pas trop dans la souffrance. Il a déjà 8 ans. Mais depuis, on a fait un autre enfant. Et là, on savait qu'on transmettait à 25% cette maladie horrible. Donc, on a fait une amniosynthèse. Et manque de chance, le deuxième enfant était atteint aussi. Et il a fallu se résoudre à une interruption médicale de grossesse qui n'a rien à voir avec une IVG. Car là, la grossesse est désirée. Et tout d'un coup, elle ne l'est plus parce que les parents disent « On ne peut pas avoir deux enfants comme cela. » Mais aussi, ils mettent fin à un enfant, à la vie d'un enfant qui a la même chose que son frère aîné ou sa sœur aînée, ce qui est insupportable. Et les femmes disent « Le jour où vous m'avez fait ça, docteur, vous m'avez arraché la moitié de mon cerveau. Je ne peux plus en passer par là et pourtant, nous souhaitons avoir un autre enfant. » Mais il y a une solution. Cette solution, c'est, bien que le couple soit fécond, de faire une procréation médicalement assistée, et au troisième jour, lorsque l'embryon humain est à 8 cellules, faire un petit trou au microscope, ça ne se voit pas un embryon humain de 3 jours, faire un petit trou dans sa coque très solide au laser, par le petit trou entrer une pipette microscopique et aspirer 2 des cellules, 2 des 8 cellules du futur embryon humain. Et puis faire des tests sur ces cellules pour savoir s'il y a la faute d'orthographe dans l'ADN ou pas. Et ne réimplanter que des embryons qui n'ont pas la faute d'orthographe sur l'ADN. Ça s'appelle diagnostic préimplantatoire. Une 60aine d'enfants sont nés en France depuis 1999, issus de ces techniques. Et tous les dossiers, je dis bien tous les dossiers français, sont ce que je viens de vous dire, côté jardin. Et maintenant, tournons-nous vers le côté court de ce troisième degré. Bien, côté court, vous avez tous entendu parler de cet horrible mot qu'est l'enfant médicament, que j'ai utilisé moi aussi jusqu'au jour où j'ai rencontré un couple. Et la femme m'a dit « Monsieur, arrêtez s'il vous plaît d'utiliser ce terme, car vous m'humiliez, moi et mon mari. Le seul tort que nous ayons, c'est de vouloir à tout prix sauver la vie de notre enfant qui a une anémie de Fanconi et qui va mourir si on ne lui fait pas une greffe de moelle. Et c'est si nous ne faisions pas tout pour sauver cet enfant qu'on pourrait nous le reprocher. » Que faut-il faire? Il faut faire le diagnostic préimplantatoire, regarder si les embryons n'ont pas l'anémie de Fanconi, la faute d'orthographe dans l'ADN, mais en plus, regarder si parmi les embryons sains, il y en a l'un ou l'autre qui est HLA compatible avec l'enfant malade. Pour pouvoir servir de donneur de moelle, en fait, il ne va rien donner, il va simplement donner le sang de son cordon ombilical à la naissance. Et ceci peut sauver la vie de son grand frère ou de sa grande sœur. C'est désormais possible en France depuis 1 an, et c'est bien. C'est bien qu'on puisse, en même temps qu'on fait un diagnostic préimplantatoire de toute façon nécessaire, regarder quelque chose d'autre pour un autre enfant. Mais là où ça devient un peu plus limite, c'est qu'il y a des parents qui viennent nous dire « Voilà, notre enfant a une leucémie aiguë et il est en rémission. » La leucémie n'est pas héréditaire, n'est pas génétique. Nous voudrions que notre prochain enfant puisse servir de réservoir de moelle pour le cas où l'aîné ferait une récidive de sa leucémie aiguë. Là, il n'y a pas besoin de faire de DPI pour faire un diagnostic, mais les parents nous le demandent pour que l'enfant soit compatible avec le précédent. Et vous voyez qu'on a glissé d'un cran et que la demande est déjà un peu plus délicate. Ceci est pour l'instant encore interdit en France. Mais il y a un cran de plus qui est fait en Europe, pas en France. C'est ce qu'on appelle le social sexting, qui recouvre le fait que certains parents qui ont déjà deux enfants du même sexe souhaitent absolument que le troisième enfant soit d'un sexe différent. On peut le faire très aisément en diagnostic préimplantatoire. Et vous voyez que j'ai progressivement passé dans le côté court de l'enfant anémie de Fanconi, où je trouve que c'est légitime, à l'enfant petit frère de leucémique, où la légitimité est moins bonne, pour passer à l'absence totale de légitimité de ces techniques dans le social sexing. Quatrième niveau de complexité, le clonage reproductif, qui est interdit dans la plupart des pays occidentaux, mais il y a de nombreux scientifiques qui sont favorables à un clonage reproductif entre guillemets maîtrisé. Qui est demandeur de clonage reproductif? Vous me direz, ça ne marche pas encore, mais ça ne saurait tarder, ça va marcher. Et d'ailleurs, ma réflexion, elle ne repose pas sur le fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce que si la réflexion était de dire et de se contenter de dire ça ne marche pas, alors ça veut dire qu'on accepterait le clonage reproductif dès qu'il marchera. Donc je crois qu'il faut faire la réflexion, même si ça n'a pas encore marché, heureusement. Qui est demandeur? Des mégalomanes qui estiment avoir un génome suffisamment extraordinaire pour vouloir le dupliquer à l'infini. Je ne cite personne, mais vous les reconnaîtrez. Les parents d'un enfant mort. Grosse demande aux États-Unis. Je veux le même. Alors ça ne me dérange pas pour un chiot, pour un chat, qu'on veuille exactement le même chat moyennant 50 000 dollars. Ça me dérange beaucoup plus pour un enfant. Mais c'est dans la troisième catégorie de demandeurs que se trouve, si j'ose dire, le danger. Il y a des cultures où la filiation a une importance considérable et où le fait d'aller chercher du sperme anonymement chez un autre donneur anonyme est équivalent à un adultère et l'enfant qui aurait en résulte a le statut de bâtard. Eh bien, dans ces cultures-là, le clonage reproductif, s'il marche, aura lieu. D'ailleurs, des pays comme la Corée travaillent véritablement à un très haut niveau scientifique, la Chine également, sur le clonage reproductif, car ils n'ont pas le même système de valeurs judéo-chrétiens que ce que nous avons en Occident. Et moi qui avais titré dans un article du Monde, il y a un an et demi, « Clonage reproductif, crime contre l'humanité », je regrette infiniment, je ne pourrais plus aujourd'hui écrire ce papier. Car d'abord, mettre au monde un enfant, m'ont fait remarquer les philosophes, ça ne peut pas être appelé un crime. Première remarque. Mais surtout, dire qu'un enfant, parce qu'il est issu d'un clonage, ressemblera à celui dont il est issu, c'est une erreur scientifique. On sait avec les veaux clonés qu'ils n'ont pas les taches noires au même endroit, les uns par rapport aux autres. Alors les taches noires, c'est vraiment quelque chose de très rustique comme signe. Mais Michel Onfray, dans son dernier livre « Féerie anatomique », dit « Voilà, j'ai 44 ans, je sais fort bien que si on me prenait une cellule de peau pour me cloner, l'enfant qui naîtrait 44 ans après moi se verrait chanter d'autres berceuses et d'autres comptines, parlerait en verlan, ne serait pas élevé dans le même pays, écouterait des tubes en rap et n'aurait ni une ressemblance physique avec moi, ni une ressemblance psychologique, et que donc l'être humain est bien plus qu'un amas de cellules et un tas de gènes. C'est autre chose, c'est une histoire, c'est une culture, et donc nous ne sommes pas le résumé de notre biologie. Je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Donc j'aurais tendance à dire, par rapport au clonage reproductif, que s'il est possible, il aura lieu, qu'il est légitime de l'interdire au nom de quoi ? Au nom de « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Beaucoup aimeraient être le premier cloneur, personne n'a envie d'être le premier cloné. Et moi qui vous parle, si j'estime que mon père a eu assez de poids sur ce que je suis devenu, en termes de conditionnement psychologique, je trouve que ça suffit. Et que, par chance, il n'a pas pu avoir quelque chose à dire sur ma liberté ontologique fondamentale qu'est mon corps, qui est unique au monde et qui est le résultat d'une loterie absolue. Je suis content d'être issu de cette loterie et je n'aurais pas voulu que quelqu'un puisse dire quelque chose sur cette loterie. Et donc, je parle au nom de l'enfant en disant « c'est pas bien de faire cela, il faut l'interdire », sans pour autant y ajouter le salmigondi métaphysico-philosophique du crime contre l'humanité, qui, je crois, est une erreur. Je voudrais dire quelques mots et abandonner l'aide médicale à la procréation pour parler du diagnostic prénatal et de la médecine fœtale, qui se définit comme étant l'ensemble des moyens et des techniques permettant de savoir si l'enfant à naître sera normal et en bonne santé. La médecine fœtale a une particularité, c'est qu'elle est bien meilleure en diagnostic qu'en thérapeutique. C'est-à-dire que comme c'est une médecine jeune, nous sommes capables de voir de très nombreuses choses sur un fœtus. En revanche, nous ne sommes pas capables de réparer grand-chose. Cette discrépance entre diagnostic et thérapeutique explique que la médecine fœtale conduit parfois à l'arrêt de grossesse lorsqu'on découvre une anomalie d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic. La loi française autorise, quel que soit le moment de la grossesse, d'interrompre cette grossesse. Les années de 70 à 90 ont été marquées par l'efflorescence du diagnostic. Mais depuis 90, il se passe quelque chose dans notre pays qui est la transposition de ces techniques de diagnostic à un tout autre programme qui s'appelle dépistage. Qui dit dépistage ? Dit que la cible, c'est toutes les femmes enceintes de France. Alors vous allez me dire, mais personne n'est obligé de faire ça. Certes, mais les hasards de l'histoire ont fait que des médecins qui n'avaient pas détecté des anomalies in utero se sont retrouvés devant les tribunaux et ont été condamnés à subvenir aux besoins d'enfants, trisomique 21, qui étaient nés tout simplement parce que les médecins qui avaient suivi la grossesse n'avaient pas vu qu'ils étaient trisomiques 21. Et c'est là que la boucle est bouclée. Plus aucun médecin en France ne se permet de ne pas informer une femme sur les possibilités qu'elle a en matière de dépistage prénatal. Non seulement sur les possibilités qu'elle a, mais on demande à toutes les femmes ce qu'elles feraient si le dépistage prénatal amenait à découvrir une anomalie d'une particulière gravité. Moi qui vous parle, je suis content d'être né avant le diagnostic prénatal, car ma mère n'a pas eu à formuler à mon sujet ce qu'elle ferait, ce qu'elle aurait fait de moi si j'avais été malade. Je suis venu et j'ai été une bonne surprise, comme j'aurais pu être une mauvaise surprise, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, plus une femme de France n'échappe à l'information obligatoire, car les médecins, s'ils n'informent pas, pour coup sûr, ils sont dans l'erreur. Et à ce sujet, je voudrais vous présenter deux vignettes cliniques qui vont illustrer pourquoi je m'inquiète de cette diffusion nationale de programmes de dépistage. La première, il s'agit d'une femme qui, en 1999, consulte pour obtenir de moi la signature d'une interruption médicale de grossesse. Elle est en pleurs, elle est en milieu de grossesse. Elle a fait le dépistage de la trisomie 21 et celui-ci s'est avéré anormal. Elle a été voir son médecin qui a fait une amniosynthèse et le résultat de l'amniosynthèse est revenu translocation équilibrée, c'est-à-dire qu'un bout de chromosome s'est décroché de l'endroit où il est et allait se mettre à un autre endroit. Le généticien lui a dit « c'est pas grave, vous devez avoir ça, vous ou votre mari. On va analyser vos chromosomes. » Et manque de chance, aucun des deux parents n'était porteur de la translocation. Il s'agissait donc d'une néomutation. Le généticien fait son travail, il lui a dit « Madame, dans la néomutation, je ne peux pas vous assurer qu'il n'y a pas un petit peu de matériel génétique perdu. 1% de probabilité de retard mental. » La femme a dit « C'est mon troisième enfant, il va bien, je le sens bien bouger, tout va bien, 1% c'est rien du tout. » C'était sans compter sur l'environnement familial et médical. Le mari lui a dit « si tu me ramènes un handicapé, je te préviens tout de suite, je pars ». Et l'environnement médical lui a dit « mais enfin, tu ne peux pas garder cet enfant. S'il a 1% de risque d'être handicapé, tu te rends compte. Si jamais il l'est, tu le savais avant. » Et c'est comme ça qu'elle en arrive. La mort dans l'âme a demandé une interruption médicale de grossesse. La voyant dans cet état, je lui propose autre chose. Je lui dis « madame, on peut suivre la grossesse très minutieusement et regarder le cerveau. Et s'il y a la moindre chose qui apparaît anormale au niveau du cerveau, quel que soit le moment de la grossesse, on avorte. » La grossesse se poursuit. Si elle avait pu m'embrasser sur la bouche, elle l'aurait fait. Elle venait pour avorter, elle repartait avec son enfant. Personne ne voit monter l'angoisse. C'est le jour de l'accouchement, un dimanche soir, juste après avoir accouché. Elle se redresse paniquée dans le lit et dit « est-ce que mon enfant est normal ?» Sage-femme dit « oui, normal, elle a froid, je vais aller l'habiller, l'allonger. » Puis quand elle revient, « est-ce qu'il est normal ?» La sage-femme dit « elle a bien les mamelons un peu écartés. » « Comment les mamelons écartés ?»« Mais on ne m'avait pas dit ça, les cours. » La sage-femme dit « mais il y a des gens qui ont les mamelons écartés, d'autres qui ont les mamelons rapprochés, c'est pas grave. » Drame, on appelle le pédiatre à 3h du matin qui examine l'enfant de haut en bas. Puis, pour rassurer la patiente, lui prescrit des examens cérébraux. Et l'angoisse continue. Tous les résultats reviennent sans problème. Je revois cette femme 6 semaines après l'accouchement. Je dis, on a bien fait. Non, docteur. Et pourquoi? Il mange tout le temps. Et il pleure tout le temps. Et vous? Et moi aussi, je pleure tout le temps. Ne riez pas. Parce que 8 mois plus tard, j'ai eu une assignation en justice pour avoir empêché cette femme d'avorter. Elle a depuis retiré sa plainte, mais l'enfant, 1999, a 5 ans et les choses vont mal. C'est une catastrophe totale. Nous avons cassé la relation entre l'enfant et sa mère. Tout le monde a fait son travail correctement, mais le résultat est une vraie catastrophe. Et la deuxième vignette clinique sur laquelle je terminerai est la suivante. Un jour, je reçois un courrier. « Voilà, j'ai accouché dans votre service il y a 20 ans. Vous n'en étiez pas le patron, mais je voudrais vous raconter l'histoire. »« Bien, madame, rendez-vous. »« Voilà, j'ai eu 4 enfants. Je vais vous parler de la 3e grossesse. Samedi après-midi, au 2e mois de grossesse, je suis pris d'une douleur dans mon ventre. Je viens dans votre service. » La sage-femme et l'interne m'examinent très consciencieusement et l'interne se tourne vers la sage-femme en lui disant « tout va bien, elle a un peu besoin de se faire chouchouter » et me renvoie à la maison. Le lendemain, j'ai un ventre de bois, je reviens et le chirurgien de votre équipe me sauve la vie en m'opérant d'une appendicite aiguë. Et il me dit, à juste titre, « ceci peut perdre la grossesse ». Et je me suis pris à me surprendre à souhaiter que la grossesse s'interrompe. Je vais à l'échographie 1 mois plus tard et la grossesse est toujours là. La sage-femme l'examine le fœtus et dit à la fin de l'examen, il est un peu petit, il va falloir le gaver. Elle me donne un rendez-vous 1 mois plus tard. Pendant tout ce mois, j'ai souhaité secrètement que mon enfant meure. Et 1 mois plus tard, elle m'a redit la même chose. L'enfant est né à terme, 2700 grammes, pas si petit que ça. Et je reconnais, dit-elle, que je ne me suis pas comportée avec cet enfant de manière normale. J'ai été trop précautionneuse à chaque maladie infantile. Et si je vous raconte tout ça, docteur, c'est qu'à 12 ans, ma fille a fugué. À 14 ans, elle s'est droguée, a failli mourir d'une overdose. Et encore maintenant, après une anorexie mentale qui a failli la tuer, je n'ai pas un contact normal avec cet enfant, alors que celui qui est né après, il n'y a pas de problème, et les deux premiers, il n'y a pas de problème. Et maintenant, docteur, j'aimerais que vous me receviez avec l'enfant. Bien, madame, rendez-vous. Iroquois, percé de partout, les cheveux violets, 20 ans. La mère parle, le père parle, mais pas la jeune fille. Alors je m'adresse à elle et je lui dis, que pensez-vous de toute cette histoire? Elle n'a eu qu'une seule phrase. Ma mère a toujours souhaité que je meure. Et la femme de me dire, vous voyez, j'ai mis 5 ans de psychanalyse à me rendre compte que il n'est pas assez gros, il va falloir le gaver, avait entraîné une anorexie mentale chez mon enfant à cause de mon comportement. Et donc, je ne sais pas si nous faisons bien en diffusant comme nous l'avons diffusé le dépistage prénatal. Il y aura un conférencier à ma place d'ici 20 ans qui sera sûrement capable de décrire le véritable ravage que nous sommes en train de faire. Pour conclure, je dirais que il faut absolument être capable de contrôler le marché, car fabriquer des échographes et les vendre, ça rapporte des sous. Faire de la publicité dans tous les quotidiens sur l'échographie 3D, ça rapporte de l'argent. Et puis les médecins gagnent leur vie avec ça. Et donc, il y a une logique de marché qui fait qu'en AMP et en diagnostic prénatal, c'est la technique qui tire l'éthique. Comme si le cheval s'était emballé, comme si les pattes de derrière étaient passées devant les pattes de devant, alors que ce devrait être le contraire. Et enfin, la dernière chose que j'aurais tendance à dire, c'est que l'autonomie des couples et des femmes est sûrement une bonne piste à suivre, mais elle sous-entend information. Et les deux phrases que j'aurais tendance de dire en guise d'information, c'est que le progrès technique n'est pas toujours un progrès pour l'homme, et que faire un enfant, c'est sûrement le plus grand et le plus beau des risques. Merci de votre attention.
C'est pas trop long.
Merci beaucoup pour cette conférence. Nous allons passer aux questions.
Pouvez-vous nous dire l'âge limite de la scolarité, par exemple pour les infirmières, les médecins? Est-ce que ça stagne ou c'est en augmentation vers 32 ans, 33 ans?
Je ne suis pas capable de répondre à votre question. Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse.
Des questions? Voilà, une question au milieu, monsieur.
Ma question est, est-ce qu'il y a des conseillers génétiques en France comme il y en a en Grande-Bretagne?
Il y a en France une discipline qui s'appelle la génétique médicale, qui est sûrement un tout petit peu faible en nombre. Nous n'avons pas, pour l'instant, de conseillers génétiques comme il y a dans les pays anglo-saxons. Je ne sais pas d'ailleurs si le niveau d'information nécessaire pour conseiller correctement les familles accepte le niveau paramédical. J'aurais tendance à augmenter le nombre de généticiens dans notre pays, mais pas à créer un corps intermédiaire de conseillers génétiques paramédicaux.
C'est la suite de ma question aussi. J'ai lu un livre de quelqu'un qui était un conseiller génétique. Il a insisté sur un point que parfois il y a des anomalies chromosomiques. Mais tous les enfants qui naissent avec la même anomalie ne manifestent pas la même déficience. Parfois, ils sont apparemment totalement normaux. C'est le cas que vous avez présenté. Est-ce que c'est aussi votre expérience pour d'autres choses?
Pour pratiquement toutes les maladies héréditaires, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a dans la même maladie des cas qui sont particulièrement graves et des cas qui sont particulièrement pas graves, ce qui rend encore plus complexe le conseil génétique.
Une question au milieu.
Déjà, dans un premier temps, je voudrais dire que, étant une fervente adepte de UTLS, j'avais l'habitude d'une présentation extrêmement chaleureuse du conférencier et je n'ai pas ressenti cela aujourd'hui.
Moi, je ne l'ai pas ressenti.
Pardonnez-moi, j'ai fait de mon mieux.
C'est pas au conférencier que je m'adresse, qui lui a été très chaleureux. C'était à la présentation du conférencier. Non. Enfin, chacun son opinion.
Toutes mes excuses,
bon,
madame.
Bon, et la deuxième, vraiment une question, c'est concernant le...
Enfin, moi, je l'ai trouvée chaleureuse, mais...
Bah, tant mieux, tant mieux. Alors, c'est moi qui ai mal ressenti les choses. Donc, autant pour moi. Ma deuxième question, c'est concernant le problème des cellules souches. J'avais cru comprendre qu'il était accordé aux chercheurs de pouvoir utiliser les embryons surnuméraires. Voilà.
Oui, je n'ai pas du tout parlé de la recherche sur l'embryon parce que ça s'éloignait du sujet sur la famille et que c'est plutôt un sujet éthique. Donc, effectivement, depuis la nouvelle loi bioéthique du mois d'août 2004, les chercheurs français sont autorisés de manière très encadrée et pour les 5 ans à venir à faire des programmes de recherche sur les cellules embryonnaires. C'était très difficile d'expliquer aux chercheurs que ça attentait à la dignité d'un embryon que de le jeter sans faire de la recherche sur lui, puisqu'on est autorisé de les jeter, et que ces embryons et ces cellules recèlent des secrets scientifiques extrêmement importants. En effet, il n'y a pas de cellules qui se développent et se multiplient aussi vite. Elles se développent plus vite que des cellules cancéreuses. Et donc, il y a des gènes qu'on appelle les oncogènes qui pilotent le développement et la division cellulaire d'un embryon et qui nous intéressent pour le cancer, mais pour de très, très nombreux sujets. Et donc, ne pas utiliser tous ces embryons en les jetant sans autoriser des chercheurs tout à fait patentés à faire des programmes de recherche dessus, c'est vraiment dommage. Donc la loi de la France autorise désormais à faire de la recherche sur l'embryon pour 5 ans, mais je suis de ceux qui sont très favorables à ce qu'on reproduise ça et qu'on n'oblige pas les chercheurs français à aller faire de la recherche à l'étranger sur les embryons des étrangers, parce que ça, c'est pas tout à fait moral non plus.
Une question sur la droite.
À propos des diagnostics prénatals, vous avez cité des cas donc, de ratés un peu. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des cas extrêmement rares? Parce que quand même là, il y avait un contexte familial autour qui était très difficile. Ça venait aussi d'un aspect psychologique. Et quand même, le diagnostic prénatal a permis d'éviter quand même beaucoup de maladies graves, j'imagine, et ce qui parfois quand même peut détruire complètement des familles.
Vous avez parfaitement raison de souligner que le diagnostic prénatal, et je ne l'ai pas dit, a des avantages. Sans cela, il n'y aurait pas de sens de le pratiquer. Il y a une légitimité médicale. J'enseigne moi-même la médecine fœtale depuis 30 ans. Et je ne suis pas là en train de dire « jetons le bébé avec l'eau du bain, tout ceci est mauvais ». Simplement, j'ai juste attiré l'attention sur le fait que ce n'est pas que du bénéfice. Ce n'est pas. Je vais prendre un exemple que vous allez comprendre tout de suite, c'est le dépistage de la trisomie 21. On a fait un programme de dépistage de la trisomie 21 sur prise de sang. Parce que la trisomie 21, pour une société où les femmes sont enceintes de plus en plus tardivement, vous l'avez entendu, est un vrai gros problème. Eh bien, en 2004, 650 000 femmes sur 750 000 grossesses ont subi ce test en France, ce qui est exceptionnel en termes de couverture. Ce test est positif faussement dans 10% des cas, ce qui veut dire que 65 000 femmes ont eu à subir une amniosynthèse à cause de ce test. Or, l'amniosynthèse, vous le savez, nous fait perdre 1% des enfants qui sont exposés à ce test. Ce qui veut dire que 650 enfants sont morts du fait de ce programme. 650 enfants sains. Alors vous allez tout de suite me dire, et combien d'enfants trisomiques ont été détectés dans le même temps? 287 par ce test. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on a détecté un enfant trisomique 21, on a perdu 2 enfants sains. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, j'ai un problème de santé publique par rapport à ce test qui est très largement diffusé. Je dis la chose suivante, il faut qu'on ait de meilleurs tests que celui-là, car celui-là inquiète 10% des femmes et surtout nous fait perdre 1% des enfants. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, je ne suis pas là en train de m'ébaudir sur « merci le diagnostic prénatal, ça n'amène que du bien ». Et j'ai parlé des choses néfastes et qui avaient des retentissements sur la famille, puis c'était le sujet d'aujourd'hui.
Une autre question sur la gauche.
Moi, ce qui m'inquiète dans les développements des techniques de plus en plus efficaces, disons, c'est qu'elles sont associées à un marché qui est de plus en plus juteux. Enfin, moi, j'ai vu quelques documents sur les États-Unis qui m'ont absolument terrorisée. Or, une différence entre la France et les États-Unis, c'est par exemple le fait qu'en France, on fait don de ces organes et on ne les vend pas. Et donc, est-ce que vous avez parlé de mères porteuses, moyennant rémunération, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à légiférer dans un sens où les mères porteuses seraient, feraient gracieusement prêt de leur ventre. Bon, il me semble que c'est fondamental de préciser cette différence entre la législation française et celle des États-Unis, parce qu'on voit des choix sur catalogue. Enfin bon, bref.
Vous avez à la fois raison et pas tout à fait. Raison en ce sens que c'est vrai que la logique du don est une logique à laquelle nous sommes très habitués en France et qui est différente du monde anglo-saxon où il y a l'habeas corpus, où les gens sont propriétaires de leur corps. Le français n'est qu'usufruitier de son corps. Mais ce n'est pas les éventuelles mères porteuses qu'on dédommagerait qui constituent la vraie angoisse en termes de marché. C'est les industriels. Et je vais vous donner un seul exemple. Récemment, sont parvenus chez tous les médecins de France une affiche qui ressemblait à une affiche officielle sur le dépistage du cytomégalovirus qui était destiné à être accroché dans les salles d'attente des médecins. Les patientes pouvaient lire qu'elles devaient demander à leur médecin un dépistage du cytomégalovirus. Or, cette affiche était faite par le laboratoire qui vend le test. Et la littérature internationale est d'une clarté totale. Il ne faut pas dépister le cytomégalovirus, car sans cela, on découvre des femmes qui ont été au contact du virus, on leur fait une amniosynthèse, on découvre que le fœtus urine du cytomégalovirus, et une fois qu'on en est là, ben on ne sait pas dire si ce fœtus aura, dans 1% des cas, un petit trouble de l'audition, car les troubles graves, on les détecte par ailleurs. Et donc, le dépistage du cytomégalovirus amène à des avortements médicaux totalement injustifiés. Donc, tout le monde est d'accord sur le plan scientifique, il ne faut pas le faire. Et pourtant, on a diffusé une affiche parce qu'un industriel avait besoin qu'on fasse beaucoup d'examens. Donc, vous voyez, c'est plutôt ça. Et ceci est en train de se multiplier. Je pourrais vous donner 10 exemples de la logique industrielle à l'œuvre pour que la big médecine devienne encore plus big et plus rentable.
Nous passerons deux dernières questions, une sur la droite.
Je vais peut-être sortir un peu du sujet, mais j'aimerais bien savoir votre point de vue sur la limite entre le clonage thérapeutique et le clonage reproductif. Voilà, merci.
Vous ne sortez pas du sujet, mais je n'ai pas du tout parlé du clonage thérapeutique, car il ne s'agit pas d'une technique de reproduction. Et donc, le clonage thérapeutique consiste à créer un tissu qui est constitué des cellules identiquement génétiques à celles du donneur du noyau. Le mot clonage, c'est le fait de mettre dans un ovule. Vous savez que le noyau d'un ovule comporte 23 chromosomes et le noyau d'une cellule de votre corps comporte 46 chromosomes. Quand un spermatozoïde arrive, il arrive avec 23 chromosomes, ce qui en fait 46. Si maintenant on enlève le noyau de l'ovule, au lieu de lui donner un spermatozoïde, qu'on va chercher un noyau d'une autre cellule à 46 chromosomes, il n'y a plus besoin de spermatozoïdes. Les 46 chromosomes seront les mêmes que celui qui a donné sa cellule. Et donc, le clonage thérapeutique en faveur duquel je milite. je pense qu'il faut que nous ayons une recherche en clonage thérapeutique. Parce que imaginez demain que nous soyons capables de traiter un infarctus du myocarde grave en prenant des cellules de la personne qui a fait un infarctus et en lui refaisant des cellules cardiaques à lui. Mais je pense à l'Alzheimer, je pense au diabète insulino-dépendant, je pense à certaines maladies neurodégénératives. Eh bien, dans toutes ces situations-là, si le clonage thérapeutique donne un résultat, je vous fais un énorme pari que la France l'autorisera dans la minute. Et moi, je trouve que c'est toujours assez inconfortable par rapport aux chercheurs étrangers de leur dire, pour l'instant, la France, tant que ça ne marche pas, ne fait pas de recherche dessus. Et on dit aux chercheurs étrangers, et n'oubliez pas de nous téléphoner si ça marche. Ça ne va pas. Donc, je pense que nous devrions avoir des programmes très ciblés de recherche sur le clonage thérapeutique.
La dernière question, tout en haut, à gauche.
Voilà. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis dubitatif sur le clonage thérapeutique. D'abord, que vous militiez pour, sans doute, c'est quand même pénalement répréhensible depuis août 2004, de 8 ans d'emprisonnement. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il est illégal aujourd'hui de défendre ou de pratiquer plus exactement cette technique, mais qu'il existe surtout, pour les espoirs thérapeutiques que vous formulez, des options alternatives qui ne font absolument pas, qui ne posent aucun problème éthique et qui contournent ces controverses. Ce sont les cellules souches adultes, dont il y a en ce moment des débats scientifiques pour savoir si elles ont une plasticité supérieure à celle que l'on prétend et qu'elles puissent se redifférencier dans d'autres types tissulaires qui permettraient des greffes autologues. Mais surtout, et ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est les cellules souches du sang de cordon ombilical qui ne sont pas des cellules souches embryonnaires, qui ne sont pas des cellules souches adultes, qui sont des cellules souches fœtales et qui ont, elles, un très grand potentiel, une très grande pluripotence. Je travaille en ce moment avec des spécialistes dans ce domaine, avec Eliane Gluckman notamment, et je dois dire que je suis assez effrayé de voir que tout le monde parle de comment cloner de l'embryon humain pour produire des cellules souches de manière à faire des autogreffes et régénérer des tissus, et que dans ce débat, personne ne parle, ou du moins très discrètement, des options alternatives qui ne posent aucun problème éthique, qui ne sollicitent absolument pas des techniques douteuses comme le clonage qui pourrait ensuite déboucher sur le clonage reproductif et qui permettent d'atteindre exactement les mêmes buts thérapeutiques. Donc, on est d'accord, le but, c'est de soigner, c'est pas d'utiliser de l'embryon à tout prix. Or, pour atteindre ce but, il existe d'autres moyens comme le clonage, comme justement les cellules souches de sang de cordon. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas?
Ne me promettez pas l'emprisonnement. Si je conteste cette clause de la loi de la France, c'est parce qu'il m'est déjà arrivé à titre personnel d'être obligé d'envoyer un de mes chercheurs à l'étranger pour travailler sur l'embryon humain parce que c'était interdit en France en matière de diagnostic préimplantatoire. Et quand on a autorisé le diagnostic préimplantatoire en France, car on ne pouvait plus continuer de l'interdire, parce qu'on était obligé d'envoyer les gens en Belgique et ça coûtait 50 000 francs la tentative et qu'il y avait discrimination, eh bien, parmi les 10 centres candidats pour réaliser du diagnostic préimplantatoire, seuls 2 centres ont obtenu l'agrément. Les 2 centres de Paris et de Strasbourg qui avaient envoyé des chercheurs à l'étranger pour s'entraîner sur des embryons humains et qui pouvaient donc prouver qu'ils étaient compétents, puisqu'ils s'étaient entraînés sur des embryons étrangers. J'ai milité pour qu'on puisse arrêter cela, c'est-à-dire pour qu'on ne soit plus, nous les Français, ceux qui disent aux étrangers « armons-nous et partez », car ce n'est pas moral. Et je crains, je ne dis pas qu'il ne faut pas refaire de la recherche sur les cellules souches adultes, bien sûr, Ce que je sais de la recherche, je ne suis pas un fondamentaliste, mais ce que je sais de la recherche, c'est qu'on ne trouve jamais ce qu'on pensait trouver et qu'il faut laisser les chercheurs chercher tout en les encadrant. Je ne dis pas, vous avez senti dans mon propos, que je ne suis pas quelqu'un qui cherche à attenter à la dignité humaine. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il risque de nous arriver sur le clonage thérapeutique la même chose que ce qui nous est arrivé sur le DPI, et que ça y est, des chercheurs français sont partis à l'étranger pour travailler aussi sur cette technique-là. Alors, en recherche, on ne peut pas dire utiliser cette technique-là plutôt que telle autre. Il faut chercher dans tous les sens, sans savoir a priori quelle technique débouchera et quelle technique ne débouchera pas. Alors, je sais que ça pose des problèmes éthiques, mais je crois que dans ce domaine-là, les convictions théologiques sont des convictions personnelles et je ne pense pas qu'elles puissent s'imposer à un État dans sa loi, sauf à risquer l'ordre moral.
Merci Israël Nizan.